Allez, 3-4, on l'a refait. Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour.
Eh bien, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Avec aujourd'hui dans les studios, pour le moment, une équipe super réduite, mais ô combien efficace. Pascal Olivier, bonjour.
Oui, salut à tous.
Et Georges Bonfils.
Qui attend son invité, Michel Cassignol, qui est sur la route.
Alors oui, qui c'est que tu nous as invité aujourd'hui ? Dis-moi.
Alors j'ai invité Michel Cassignol, qui est avocat à Moissac, que l'on connaît beaucoup, tout le monde
connaît. T'as des problèmes en ce moment ou quoi ? Pourquoi t'as invité un avocat ?
Peut-être.
C'est ça.
Mais il a aussi une propriété familiale avec ses deux frères dans le à Villeneuve-les-Corbières où ils font un très bon fitou et un très bon corbière.
Ah,
dont
voilà.
On en profitera pour goûter ses verres.
Et d'accord. Puis on a sur la table là
quelques charcuteries, quelques victuailles de Châtelière qui de temps en temps nous fournit.
D'accord.
Là il y a un friton de canard, un pâté de campagne, un coudoir farci avec pas mal
de goût
et de comment ça s'appelle de
Deux fois gras.
Oui, il a l'air très chargé.
Et la saucisse, c'est fraîche.
Bon, ben.
Et un petit peu de pain pour accompagner tout ça. Mais pour les 5, il nous manque le vin.
On va pousser ça avec quoi?
Normalement, avec du corbière, mais enfin, on va bien voir.
Monsieur Cassignol, alors l'audience est levée.
Maître,
l'audience est levée.
Merci à Stéphane d'assurer la partie technique de cette émission pendant les vacances d'Aurélien.
Il va s'en sortir très bien.
C'est pas du gâteau, alors bravo.
Le moment qu'il nous fourgue pas de la pizza et nous fait pas boire de l'eau, tout va bien.
On a failli avoir du KFC hier.
Oui, oh, bravo. Vigon, Bami, Jay. Est-ce que vous connaissez ce trio-là, monsieur Georges Bonfils?
Non, du tout.
C'est un album qui est arrivé sur mon bureau cette semaine, ça vient de sortir, c'est sous-titré Les Soul Men et vous allez évidemment comprendre pourquoi de suite.
Ma Soul Men.
Ah ben voilà. Et on peut même pas trinquer, on a même pas
quoi. Si on a des verres, mais c'est pas. Ouais. Écoute, on va démarrer par quelque chose et puis ça va le faire venir.
Tu sais qu'on a un petit Bordeaux quand même.
Oui, on va se taper. And when you get it, you got something. So don't worry, 'cause I'm coming. I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul man. Got what I've got. The hard way. Nick, baby, it's every day. So, honey, don't you fret. 'Cause you and Steve, nothing yet. I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul man. Listen, I was born up on a South Street.
Comment tu trouves cette reprise trop
conforme à l'original?
Ouais.
Oui.
Tu sais qui c'est?
Non.
Alors je te le livre comme ça. Il s'appelle Vigon. de The Voice 2012, Eric Bamy, choriste de Johnny Hallyday et finaliste de La France a un incroyable talent 2010, et Jay, le leader des Poetic Lovers. Voilà le trio Vigon Bamy Jay qui reprend les plus grands standards américains de façon soul et nous entraîne du côté de Memphis et de Détroit pour un album, nous dit-il, bluffant, gorgé de cuivre et de frissons. Ça, c'est ce que nous dit la pochette de l'album.
Bon, c'est vrai que ce sont des techniciens du chant, ça s'entend, hein, ça se chante très bien, mais ça manque un petit peu de...
Bah, c'est format TF1, ouais. Quoi, hein, en quelque sorte.
Voilà.
Alors, Maître Cassignol, veuillez vous présenter à la barre de CFM pour défendre qu'est-ce qu'on déguste. Il y en a trois à défendre ce soir. Et
avec un passif lourd.
Oui, c'est ça.
Oui, j'ai bu, monsieur le président.
Et qui a bu boira, monsieur le président?
Mais je vous promets pas que je le referai plus.
Mais j'avais des circonstances atténuantes.
J'avais soif. Je vous collez 20 ans, mon
sans compter que le coup est très bien. Il n'est même pas trop chargé. Ah, c'est bien. Bon, ben, écoute, on n'a pas notre invité. Donc, on peut commencer tout doucement, si tu veux bien, par soit un morceau de jazz, soit une recette de cuisine. Moi, je suis à votre disposition, les gars.
Je crois qu'il n'est pas le premier.
Bon.
Amène-nous du jazz, c'est un mauvais moment à passer, comme ça, au moins.
Encore, il y a toujours de plus en plus d'amateurs pour le jazz.
Ah bon?
Bon, la dernière fois, j'avais fait Louis Armstrong en compagnie de Duke Ellington. Donc, il était normal qu'aujourd'hui, je donne la part belle à Duke Ellington. Duke Ellington est un pianiste et est un des plus grands compositeurs de jazz. Il a traversé le XXe siècle et son orchestre continue toujours à jouer après 80 ans d'existence. Bon, Duke Ellington est un pianiste, compositeur et chef d'orchestre américain qui est né en 1899 et qui est décédé en 74 à New York. Son orchestre était un des plus réputés de l'histoire du jazz avec celui de Count Basie, dans ceux qui ont fait partie des big bands qui ont joué pendant des décennies. Même le big band de Count Basie continue à tourner avec les œuvres de son compositeur. Cet orchestre comprend des musiciens qui étaient parfois considérés tout autant que Duke Ellington comme un géant de la musique. Quelques-uns de ces musiciens sont restés dans l'orchestre pendant des décennies. Certains d'entre eux étaient déjà dignes d'intérêt par eux-mêmes. Mais c'est surtout Duke Ellington qui les transformait et qui avait l'habitude de composer spécifiquement pour chacun des musiciens, en tenant compte de leur point fort, des morceaux comme Jeep and Blues pour Johnny Hodges, le saxophoniste, Concerto for Cuti pour Cuti William, le trompettiste, ou The Moch pour Joe Danton, qui était contrebassiste. Il a aussi enregistré des morceaux composés par des membres de son orchestre, comme le fameux Caravan que tout le monde connaît, qui a été joué par des milliers de musiciens de jazz, et Perdido de Juan Tizol, qui était un tromboniste. Ah, il a fait aussi de la musique sacrée. Il a joué dans les grandes églises de New York et de Londres.
Il est allé à Rome? Il n'a pas donné un concert à Saint-Pierre, à Rome?
Non, je pense pas.
Ah bon?
Dans ma mémoire, je pense pas. Là, nous l'écoutons, comme on l'a souvent écouté en big band, on l'écoute en petite formation. Le premier morceau que j'ai choisi, c'est un duo avec Ray Brown, le contrebassiste.
Marie de la Fitzgerald.
Mais Marie de la Fitzgerald, et le morceau, c'est une suite, il s'appelle Second Mouvement. Pour basse et piano.
Ouais.
Okay.
Ah oui, là, ça s'annonce bien.
Oui.
Sous la pluie, mais bien.
Écoute, il est bien ce petit Bordeaux là aussi, là.
Mmh. Un peu de bois.
Pas vraiment.
Légèrement.
Ouais. Château Sainte-Barbe. Médaille d'argent au concours de Bordeaux 2010.
Et on s'en bat au vin de table qui passe bien.
Mmh. Aux arômes de vanille du bois de chêne. Ouais. 80% Merlot, 10% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon. Thank you.
comme on peut bien entendre une contrebasse quand elle est bien jouée avec juste un piano, quand deux maîtres sont à l'œuvre, Duke Ellington et Ray Brown.
Bonjour maître.
Bonjour et excusez mon retard, j'étais effectivement sur la route comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Jean Cassignol est notre invité, Georges, non pardon.
Jean était mon père.
Pardon.
Je ne suis que son fils, hélas.
Alors, Michel, c'est ça ?
Michel, tout à fait.
Michel Cassignol. Avocat à la vie courante, mais c'est pas cette partie-là de votre personne, cette casquette, si j'ose dire, qui va nous intéresser aujourd'hui. Oui, posez le morceau de cou là.
Posez votre cou sur la guillotine.
Ah, c'est ça.
Vous le sentirez bien, comme d'habitude.
Bah parce que voilà, c'est Georges qui nous a dit tiens, j'ai un ami qui a des parts dans un vignoble. Alors déjà ça m'épate. On a des parts dans un vignoble. Comment ça fonctionne ça?
C'est un vignoble familial.
Alors c'est une propriété familiale qui est dans la famille depuis avant la Révolution, puisque nous avons pu remonter jusqu'en 1657, ce qui est déjà pas mal. Et nous sommes effectivement, nous avons des parts en ce sens que mes parents ont eu la bonne idée de créer un GFA, groupement familial agricole, groupement foncier agricole exactement, dans lequel toute la famille avait des parts. Et puis après le décès de mes parents, nous sommes retrouvés trois à égalité entre mes deux frères aînés, puisqu'ils sont, je suis le petit dernier de la famille. Et c'est le second, qui est accessoirement dentiste à Rivesaltes, qui s'occupe de la partie exploitation du vignoble. Et c'est mon neveu, le fils de mon frère aîné, qui s'occupe de la partie commercialisation du vin.
D'accord, mais finalement, aucun d'entre vous ne ramasse le raisin
Si, Philippe est sur le terrain, ouais. Il est plus souvent sur la vigne. Il est plus souvent dans la vigne que sur son cabinet dentaire, ou sur les genoux de ses patientes.
Et vous-même?
Moi, je suis avocat à Moissac, puisque j'ai fait mes études à Toulouse et je me suis installé en Tarn-et-Garonne. Enfin, plutôt, j'ai fait mon stage en Tarn-et-Garonne il y a maintenant un peu plus de 35 ans. Ce qui m'a permis de rencontrer nos petits camarades, Georges Bonfils, Francis Bott et autres, Gérard Ronto, qui m'ont paru tout à fait sympathiques, qui m'ont permis de découvrir le Tarn-et-Garonne. J'y suis resté. Je suis resté.
Par le côté musique ou pas du tout? Vous faites un peu de musique, vous côté, aussi?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis amateur.
Amateur de jazz.
Amateur de jazz en particulier, mais je ne joue pas et j'en serais bien incapable.
D'accord. Et donc, vous avez quand même, à un moment, fait les vendanges.
Ah oui, petit, c'était notre tradition. Ouais. À partir de 10 ans, on était dans les vignes, on faisait les vendanges, effectivement, on participait. Alors, moi, j'étais à partir du moment où j'ai eu le permis de conduire et j'ai eu la chance d'avoir le permis de poids lourd assez rapidement, j'étais préposé à la conduite et
à la
manutention. D'autant qu'à l'époque, nous avions trois propriétés sur trois communes différentes. Donc, il y avait une propriété qui était quand même à 15 km du siège de l'exploitation. Tout était centralisé à la propriété et le vin étant fait à la maison. J'avais surtout la responsabilité des tracteurs d'abord et des camions ensuite, des camions bennes pour amener la récolte sur place.
Et alors donc, faites-nous une présentation du domaine lui-même aujourd'hui. C'est un gros domaine?
Alors maintenant non, c'est un domaine, nous avons eu jusqu'à 100 hectares plantés avec donc sur trois communes.
Domaine de l'Espigne, hein, c'est ça?
Château l'Espigne. Voilà. Château l'Espigne, alors selon l'appellation, vous avez à avoir domaine ou château.
J'ai un rosé de domaine là.
Voilà, domaine.
Pour les vins de pays, c'est domaine. Et pour les AOC, c'est château.
Voilà, Georges vous l'a très bien expliqué. Les AOC ont droit à l'appellation château. Les vins de pays ne peuvent avoir que le droit à l'appellation domaine. Et donc, nous avons toujours fait de la production à la propriété. Nous n'avons jamais été en cave coopérative. Et quand mon frère a repris l'exploitation de la propriété en 1977, à peu près, si j'ai bonne mémoire, il a voulu passer à la mise en bouteille. Parce que nous ne faisions que de la production en vrac, qui était vendue par l'intermédiaire de courtiers qui réussissaient à nous placer sur les marchés. Et à partir de 1977, un petit peu plus tard, en fait, en 1980, nous sommes passés à la mise en bouteille, ce qui demande un investissement énorme, à la fois en matériel et en personnel aussi, parce qu'évidemment, les bouteilles, elles poussent pas sur les grappes.
Vous les remplissez pas là-même, maintenant, il y a des bouchonneuses, il y a des embouteilleuses. Vous savez qu'il y a des embouteilleuses.
Ah oui? C'est fini, l'entonnoir?
Ah oui,
ça n'existe pas.
Vous m'en apprenez de belles.
Moi, je vais vous raconter une anecdote. Mon grand-père achetait du vin en vrac et il descendait à la cave, le mettre en bouteille, lui-même, à la main. Et ma grand-mère le faisait siffler parce que lui, bon, il remplissait les bouteilles, mais quand on bouchonne, il faut toujours laisser un espace d'air, sinon ça gicle, ça pète, la bouteille casse, etc. Donc, lui, il buvait le trop-plein. Et ma grand-mère le faisait siffler, et quand il s'arrêtait de siffler, elle descendait à la cave parce qu'il était en train de tchuquer les fonds de bouteilles, enfin le col des bouteilles. Et donc ça sifflait, la mise en bouteille, ça se faisait à la main.
C'était lui la part des anges alors.
Eh oui, un peu, beaucoup même.
Le secret de la part des anges est enfin révélé.
Est-ce que je vous sers une goutte de cette surprise d'automne? C'est ce qui est écrit sur...
Alors c'est tout à fait une surprise d'automne. Là c'est un vin qui a été une expérience. Nous allons tenter une expérience, nous verrons bien si ça a du succès. C'est le genre de vin, effectivement, qui peut avoir du succès au bord de la mer, en été.
Dans c'est plus un apéritif.
C'est plus un apéritif.
Ouais. Oui, c'est, carré, c'est carrément un apéritif. C'est pas un, ce qu'on a...
C'est un vin apéritif.
On
c'est...
a goûté des rosés qui se font dans la région, qui sont des rosés sucrés, et qui, on sent vraiment le goût du rosé, tandis que là, on sent, c'est du grenache.
C'est du grenache, ah, exactement.
On sent carrément un grenache presque...
C'est du grenache muté.
C'est presque un apéritif.
Presque
c'est un
riz.
C'est un vin doux naturel. Voilà. C'est un vin doux naturel.
Et un degré qui est tout muté. À fait... Mais 13 degrés, c'est tout. Oui. Alors qu'un vin doux naturel, c'est, il tape 17, dans les 16, 17, 17 18,
souvent,
etc.
Souvent, le muscat est plus élevé en degré, ça d'accord. C'est certain.
Et là, il est muté.
Il est muté. Il est muté à l'alcool.
C'est quoi muté?
On rajoute à la vendange, au jus de raisin, on rajoute un alcool neutre, c'est le principe des portos, c'est le principe de des mories, des rives altes. On rajoute un alcool
des pinots des Charentes.
Neutre pour faire, pour arrêter la fermentation du vin et donner un degré alcoolique et un goût, une fermentation qui ne se fait plus sur le sucre, mais qui se fait d'une autre manière avec des enzymes, des levures, etc. Donc on arrête la fermentation, c'est pour ça qu'il y a, ça fait jus de raisin alcoolisé et non pas alcool avec du vin.
Excellente explication. Je n'aurais pas dit.
Bon. J'ai sauvé ma tête.
Alors. Ça veut dire quoi, Maître Cassignol? Ça veut dire que quand vous recevez chez vous, vous pouvez dire tiens, ça c'est mon vin, c'est le vin de mon... Non mais ça doit
péter quand même. Hein. Bah, ils cherchent tous à faire ça, regarde Depardieu.
Ça le fait quoi.
Hein?
Ça
le quand fait. Même.
Oui, c'est pas mal.
Vous faites mais en des dégustations en familiales à des moments.
C'est pas notre but principal. Notre but, ça serait plutôt de trouver effectivement des acheteurs qui nous en prennent, parce que l'investissement est important. Et je dois dire qu'on s'en sortait en définitive peut-être mieux quand on produisait peut-être moins de qualité, c'est incontestable, mais qu'on avait un réseau de courtiers qui nous achetaient et qui
diffusaient notre vin un peu
partout. C'était plus
simple. Vous produisiez, pas forcément de la qualité, mais c'était
bah, il mélangeait ça avec du Bourgogne, avec
non,
du Bordeaux.
Non, au contraire. Nous voyons quantité de camions-citernes qui partent de la région de Narbonne et qui vont se vider du côté de Bordeaux. Et non pas le contraire.
Bien sûr. Oui, non, ça
c'est nous qui enrichissons. C'est nous qui enrichissons. Les Bordelais ou les Bourguignons, et non pas à l'inverse.
Avec de la couleur.
Avec de la couleur et du degré.
Et du degré.
Donc
aujourd'hui, la commercialisation est plutôt... Rappelez-nous, combien vous avez d'hectares finalement?
Alors maintenant, nous sommes réduits à 35 hectares, puisque tout a été centralisé. Nous avons gardé le cœur de l'exploitation, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la propriété. Nous avons eu l'appellation château, ce qui implique effectivement que les propriétés soient sur la même commune que le siège de l'exploitation, c'est un des critères. Et tout est produit effectivement sur place.
Alors vendange manuelle, pas manuelle?
Vendange manuelle exclusivement parce que c'est vendange manuelle exclusivement parce que c'est du coteau et on ne peut pas y faire rentrer une machine. Même les tracteurs, quelquefois, ils attaulent, comme on dit chez nous.
Ils attaulent.
Donc ça turbine.
C'est quoi la différence Fitou Corbière?
Alors c'est dans la composition des cépages. Le Corbière est principalement à base de Carignan, qui est le raisin noir traditionnel de la région. Et il n'y a pratiquement que du Carignan et ce qu'on appelle des cépages améliorateurs, qui peuvent être de la Syrah, qui peuvent être de la Ramon, qui peuvent être des cépages améliorateurs, mais en petite quantité. La base même, c'est vraiment le Carignan.
D'accord.
Alors que le Fitou, qui est produit... Alors, nous avons la chance d'être sur une appellation multiple, puisque nous avons l'appellation Corbière, qui est l'appellation, disons, plus générique pour la plupart de cette région de l'Aude. L'appellation Fitou, qui est très restreinte, et également l'appellation Muscat de Rivesaltes. Notre propriété est vraiment très très bien placée de ce point de vue sur le plan géographique.
Ah, vous faites aussi du Muscat de Rivesaltes.
Ça pourrait presque être un Muscat de Rivesaltes.
Ça aurait dû être un Muscat de Rivesaltes si on l'avait commercialisé plus tard. Il y a des questions de date. Il faut attendre effectivement que les contrôles de qualité soient passés pour pouvoir avoir l'appellation Rivesaltes au-delà. Et là, comme il a été mis en bouteille trop tôt, il ne s'appellera pas Muscat de Rivesaltes, mais il en a les mêmes qualités. Et le
Tout
Muscat...
à fait.
Là, c'est du grenache, hein.
Oui.
Tandis que celui-ci est du muscat. Muscat, l'appellation Rivesaltes, pas de difficulté.
D'accord.
Et donc, l'appellation Fitou est très particulière parce que d'une part, donc, c'est les cépages qui sont différents puisqu'il y a, en gros, 60% de Carignan, 30% de grenache et un cépage améliorateur qui peut être de la Syrah, de la Ramon ou du Petit Grain.
Le Petit Grain.
Du Petit Grain.
Petit Grain, c'est un cépage doux, ça.
C'est pas un cépage. En fait, le Petit Grain, c'est le tout venant.
Ah.
C'est qu'on appelle le Bourgogne pas ce tout grain. En fait, c'est le tout venant du Bourgogne.
On met tout
ce qui ne veut pas dire qu'il sera pas bon, hein.
On met tout ce qui reste.
C'est le tout venant.
Ça fait du volume.
Ça fait du volume. Mais ça fait aussi souvent de la couleur.
Non.
Ça fait aussi souvent de la couleur. Mais le Carignan n'en a pas besoin parce qu'il est naturellement noir.
Pascal, je suis très embêté en ce moment. J'essaye de faire des brouillades d'œufs aux aillets et je ne sais pas si je dois mettre mes aillets tout crus comme ça jetés dans mes œufs ou s'il faut d'abord que je les jette dans la poêle avec un peu d'huile ou avec un peu de beurre. Et à la fin, en plus, ma brouillade d'œufs, elle est un petit peu collée. Explication, s'il te plaît.
Mon pauvre ami.
Ah bah oui, mais j'ai besoin de toi.
Dans quoi te fourvoies-tu ?
Dis-moi.
Pour faire une brouillade d'œufs aux aillets. Bon, ben, on prend ces aillettes qu'on va acheter au marché. Attention, on arrive à la fin, là, des aillettes. Ça, demain, il y en aura encore, demain samedi, ou aujourd'hui samedi, si vous écoutez la rediff. Mais dans une semaine, l'aillette va commencer à se raréfier, à devenir de l'ail, des os. Donc là, aujourd'hui, on a des aillettes. Donc, des jeunes pousses d'ail. Vous allez les acheter au marché, vous rentrez chez vous, vous les passez un petit coup sous l'eau, vous enlevez les petites racines qu'il y a au bout, vous coupez, vous tronçonnez à trois quarts.
On enlève un peu les feuilles, on enlève la première peau,
trois quarts des feuilles. Allez, hop, c'est bon. On coupe, moi je tronçonne ça en petits morceaux de entre 1 et 2 centimètres à peu près. Je fais chauffer une poêle, un trait d'huile d'olive, et je fais revenir mes aillettes.
Ah, voilà.
Je les fais revenir.
On fait d'abord revenir, mais pas trop, parce que faut pas que ça roussisse, ni quoi que ce soit.
J'aime bien quand il y a des petits morceaux qui sont un peu cramés. Ça donne un petit goût qui est sympa. Donc il faut des gros morceaux et des petits morceaux.
Allez, j'aime bien le côté presque cru, c'est pour ça que...
Ah, et ben alors là, tu les fais moins cuire, tu les mets à feu vif. Tu les fais moins cuire pendant ce temps-là, tu as préparé tes œufs. Donc 3 4 5 6 6.
Je les ai préparés, je les ai posés là sur le côté.
Voilà, tu les as préparés. Non,
il nous reste 30 secondes.
Tu les as mis, tu les as mis dans un ravier. Tu as cassé tes œufs, tu les as un petit peu battus, tu as rajouté un petit peu de lait, un petit peu d'eau, sel, poivre, 2-3 morceaux de beurre, et lorsque tes aillets sont bien revenus, tu verses le tout dans la poêle et là tu baisses le feu parce que l'œuf brouillé se fait vraiment une chaleur très, très, très modérée, très, très douce. Et on a coutume de dire que l'œuf brouillé se fait plus en dehors du feu que sur le feu. Donc, une cuillère en bois, tu as tes aillets, tu balances tes œufs, très peu battus, pas comme une omelette où on doit faire rentrer de l'air pour que ça soit mousseux. Et là, tu vas mettre tes œufs et avec une cuillère en bois, tu vas touiller.
C'est ça le truc,
il faut touiller sans arrêt à une chaleur très modérée. Si on voit que ça va trop vite, que ça prend trop vite, on sort la poêle du feu, en dehors du feu, on continue à touiller. Et l'œuf brouillé, il doit être quasiment liquide. Cuit, mais liquide.
J'ai rajouté du lait et une fois que ça avait un peu trop pris, j'ai rajouté un œuf supplémentaire.
N'allez jamais manger chez lui.
Pour essayer de rattraper le truc.
Non,
parce que je voyais bien
pas.
Que je faisais un espèce de mortier tout pourri.
Non, tu vois. Pas feu fort. Donc, les aillets, feu vif pour les saisir et les cuire. On balance ses œufs et là, on baisse le feu ou on fait en dehors du feu pour faire sa brouillade. Et il faut du beurre. Il faut mettre du beurre. Il faut en mettre beaucoup. Il faut mettre 6 œufs, vous mettez 10 grammes de beurre par œuf.
Ah ouais, quand même.
Ah oui, il faut du beurre.
Mais j'avais pas mis
du beurre.
Ben voilà pourquoi.
Oui, bon, là c'est une histoire
là,
de puriste parce que c'est vrai.
Mais sur le
feu gaz, on peut y arriver. Il faut simplement mettre sur le feu quand ça n'accroche plus, le sortir lorsque ça va un peu trop vite et surtout ne pas arrêter de tourner.
Voilà, vous avez votre recette pour votre brouillade d'œufs aux aillets. C'est la fin, donc ne la ratez pas.
Et on peut rajouter des pointes d'asperges vertes.
Allez, la suite de Qu'est-ce qu'on déguste, c'est après les infos. À tout de suite.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Bon, allez, si vous prenez le train en route, sachez qu'on est plutôt pas mal. Le mauvais temps arrive à grands pas, mais nous, on s'en fout. On a du fitou, du corbière, du muscat de Rivesaltes. On a même la surprise d'automne. On a de la bonne charcuterie et notamment un coup farci de chez notre ami Tellière. Donc on est plutôt pas mal branché là hein, sur qu'est-ce qu'on déguste ce soir. Notre invité, c'est un ami à toi, Georges, c'est toi qui nous a proposé d'inviter Maître Cassignol, avocat à Moissac, Michel Cassignol.
Michel Cassignol et accessoirement viticulteur amateur.
Voilà, et donc on s'est dit, mais il a peut-être des problèmes. On a cru qu'il... C'était quelque chose pour vous faire un peu de lobbying ou un truc comme ça, pour vous avoir un peu dans la poche, quoi. Il a peut-être des problèmes en ce moment, Georges. Ça va, t'as...
Non, ça va.
Ou alors c'est parce qu'il craint qu'à qu'est-ce qu'on déguste, on ait des problèmes et qu'on ait besoin d'un avocat. Donc,
Je suis pas naissance de divorce.
Les comptes en Andorre ne sont pas encore surveillés. Il est tranquille. Il peut aller chercher ses partagas, ses Monte-Cristo, sans problème.
Il a niqué les portières de la voiture de son épouse. Donc, c'est un motif de divorce.
Château Lespigne, Domaine Lespigne, c'est le vin que l'on déguste ce soir. Enfin, les vins. Hein,
c'est des corbières.
Voilà, c'est des corbières.
Les vins des corbières.
Alors, le vin des corbières, c'est un vin qui s'invite très, très régulièrement sur les tables ici, hein, de tout le sud de la France. On boit ça très, très souvent quand même. Hein. C'est le vin ensoleillé. C'est le vin de ceux qui ont pas le snobisme du Bordeaux, par exemple, et qui, pendant longtemps aussi, voulaient se payer un vin un peu moins cher que les vins de Bordeaux. Non, je me trompe, Georges. C'est ça ou pas?
Oui.
Oui, c'est ça. Il s'en fout. Il est là, il prend les bouteilles, machin. Bon.
Je suis en train de vérifier quel est le vin que l'on doit goûter. On vient de goûter, parce qu'on vient de goûter le deuxième rosé, qui est un rosé de table.
Déjà? Mais c'est pas lui, moi, ça.
Tu suis pas.
Mais ouais. Non, vas-y.
T'es en retard d'une guerre.
C'est-à-dire que les corbières, c'est vrai que depuis très longtemps, les corbières étaient là pour faire du volume, pour faire du degré, pour faire de la couleur. On l'a dit tout à l'heure. Donc, souvent, les camions-citernes partaient des corbières pour aller vers Bordeaux, pour amener du volume, pour amener de la couleur, pour amener du degré, pour amener...
Ce sont les mauvaises langues qui disent ça.
C'est pas vrai, ça continue
encore.
Mais à
Bordeaux, les Bordelais ne boivent pas du Bordeaux. Ils boivent des vins de table à midi, à part le...
Des vins de table mélangés avec du corbière, ça donnait le goût, la couleur, le volume.
Ça c'est tout à fait normal.
Et depuis quelques années, bon, les vignerons des corbières ont fait des gros progrès qualitatifs et maintenant ils arrivent à faire des vins que l'on appelle des corbières et qui une appellation qui commence à être reconnue sur des vins qui sont très francs, très honnêtes et il y a de plus en plus de vignerons et je vois d'ailleurs une chose qui me plaît, c'est que le domaine Lespigne, ils sont vignerons indépendants, c'est le label vigneron indépendant, et un vigneron indépendant est toujours un vigneron, fait toujours un produit de qualité. Parce qu'il y a un cahier des charges qui est rigoureux.
C'est vrai, ça?
Oui. Effectivement, d'abord, parce que...
Vous n'allez pas me dire non, vous n'allez
pas critiquer les coopératives.
Non, c'est pas,
c'est un cahier des charges qui est bien.
La vieille querelle entre les producteurs indépendants et les coopératives, il n'est pas question de critiquer les coopératives, il n'est pas question de critiquer non plus les grands producteurs, il y en a, mais effectivement, les vignerons indépendants...
Mais si, ils font de la merde.
Pas toujours. Non, il faut être objectif, pas toujours. Il y a d'excellentes coopératives.
Mais non, mais tu prends ici les vins la coopérative de Jansou, la cave des vins des coteaux du Quercy.
Elle a raison, il a raison. Pas tous. Mais il faut être radical à un moment ou à un autre, donc on dit les gros, les grands.
Grosses coopératives.
Et voilà.
Ils font de la grosse cavalerie.
Ils font du volume et les producteurs indépendants font de la qualité.
Les petites coopératives à côté de chez nous, à côté de Villeneuve, vous avez le village d'Embres et Castelmort. Qui est à 5 km où j'y allais très régulièrement en vélo quand j'étais gamin, qui a une toute petite coopérative qui produit peut-être pas beaucoup plus que nous à peu de choses près et qui fait un vin d'excellente qualité. Je suis pas là pour vendre le produit des autres.
Non, mais quand
il faut reconnaître la qualité des voisins.
Quand tu fais pas beaucoup, tu es obligé de faire de la qualité parce que si tu fais de la merde, ben là tu es mort. Bon, les coopératives ils travaillent sur de la quantité parce que il faut bien que ça marche. Enfin, ils arrivent à faire vivre des vignerons.
Maintenant, comme la consommation de vin se réduit de plus en plus, ils sont obligés de travailler aussi la qualité.
Tu ne vas pas me dire que le rosé piscine, c'est de la qualité.
Mais tu prends toujours cet exemple.
Mais parce qu'il est flagrant,
ouais.
Parce que...
c'est des vins marquetés. Bon, il en faut aussi.
Oui.
C'est une boisson qui permet aux jeunes de venir progressivement au vin.
Au vin, il faut boire.
Comme autrefois, le Tariquet a fait découvrir le vin aux femmes.
Ouais, féminin. Est-ce qu'on peut avoir
Qu'est-ce que tu veux?
Moi, je voudrais les hauts ferrés.
Pourquoi faire?
Ben pourquoi faire pour plein de choses. D'abord parce que c'est un énorme artiste, parce que cette année à l'Orchante il y a un hommage à Léo Ferré.
Oui.
J'avais eu la chance de le voir au théâtre de Montauban il y a fort longtemps et que bon voilà c'est tout.
C'est tout.
Ben parce qu'il se suffit à lui-même, Léo.
Mais je croyais que dans le titre justement il y avait une sorte de spécial dédicace. Mais je le dirai
à la désannonce.
Léo Ferré. Ni Dieu,
ni maître. En public.
Enregistrement 1812.
Non, en public, je crois, Bobino, pour l'Olympia.
Ouh, alors 1970.
Non, 70-75,
ouais, voilà.
Mais il avait la rue.
Tu l'as vu.
Ça, c'est... Tchin tchin.
Et le remords des fonds de jatte avec la peur qui prend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles tombe froide sur la dalle et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître, ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service, cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qui n'en peut être ni Dieu ni maître, cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
La salle en délire à l'Olympia, ça doit être des années 72-73, pour Léo Albert Charles Antoine Ferré, qui est né à Monaco en 1916 et qui est mort en Toscane en 1993, un des plus prolifiques auteurs de la chanson française. Et alors j'ai gardé ça parce que ni Dieu ni maître, c'est assez emblématique de ce que écrivait, de ce que chantait Léo Ferré, qui se réclamait du mouvement anarchiste. Et là, il dit, cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu, ni maître.
On rappelle qu'il y a une soirée spéciale Léo Ferré. Et ça va être une très belle soirée. Tu sais qu'il y a un monde fou. Mmh. Et avec des artistes comme Yves Jamais, comme mais d'une, il y a même Camélia Jordana, tiens par exemple, tu
je
vois,
même qui pas avait... qui c'est.
Camélia Jordana, c'est celle qui avait gagné quoi la Star Academy ou un truc comme ça. Ouais, avec Anna Lassane, elle avait gagné Top Chef. Non, c'est quelqu'un qui avait gagné un télécrochet là il y a 2-3 ans et qui avait quand même fait et
c'est vrai
albums,
que Léo Ferré n'est pas forcément accessible à tout le monde, c'est très, moi je l'ai découvert très tard, bien que je l'ai vu, j'avais 18 ou
ouais, mais
17
ça,
ou 18
c'était,
ans.
C'était en côté UMP.
Entrepreneur, le coup d'oie est accessible à tout le monde et aux invités aussi.
Oui, pareil, c'est sans option.
Merci votre
il veut du coup d'oie. Et donc Léo est pas forcément, Léo Ferré n'est pas forcément, c'est un petit peu dur à rentrer dedans. Mais bon, il faut écouter bon, beaucoup de poèmes de Baudelaire, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Aragon.
C'est un peu chiant quand même, non?
C'est pas si chiant que ça. Non, c'est pas si chiant que ça. Et c'est vrai que Léo Ferré avait un charisme sur scène. Et puis bon, il disait quand même ce qu'il avait à dire. Il avait une grande gueule et il pouvait. Tu vas sur YouTube, il est en train d'engueuler du public à Bourges. Il engueule du public qui fait du bruit.
Il y a un enregistrement de Léo Ferré. Ou avec le temps.
Oui, avec le temps, on va, tout s'en va.
Et tu sais que tu entends, vous avez sans doute cet enregistrement public où vous l'entendez hurler à un moment « Salope !»
Ouais, peut-être, oui, oui.
C'est un enregistrement, tout le monde l'a, ce truc. Il y a un enregistrement public de Léo Ferré. Et il chante avec le temps. D'ailleurs, ça doit être un des.
C'est à Bourges.
C'est un des seuls.
C'est
un
c'est
des seuls
enregistrements.
Non. C'est un des seuls enregistrements de cette prise-là parce qu'elle était bonne. Et en fait, parce que au moment où il chantait cette chanson, il a vu son ex-femme dans la salle. Et donc, il
a passé les dernières années de sa vie avec Pépé. Pépé, c'était Saguenon qu'il suivait partout. Elle s'appelait Pépé.
Il habitait à un moment donné dans le Lot à Gourdon. Il avait un château à Gourdon.
Son avant-dernier concert, ou presque son dernier concert, c'était ici. C'était
à Montauban.
Ouais. C'était au théâtre Olympe de Gouges, ouais. Pendant le festival Alors Chante, ou en tout cas à l'invitation de Chant Libre. Je sais plus si c'était pendant Alors Chante ou. Mais c'était
un grand personnage. Écoutez ou réécoutez Ferré, je pense que c'est bien.
J'ai d'ailleurs remarqué que. Ah, le festival de jazz de Montauban, en général, quand il invite une vedette d'un certain âge, elle meurt l'année suivante. Ça a été le cas pour Charles Trenet, et ça a été aussi le cas pour Henri Salvador.
Oui, mais c'est le festival de jazz, pas le même festival.
Qui c'est qui a cette année?
Alors cette année,
James Bond est mort après.
Eh ben non, on a les gars du ska là. One Step Be Down.
Madness.
Ouais, ils doivent avoir un certain âge déjà, les types,
oui,
hein, quand même.
Dans les 60.
Chaque jeudi soir, à Montauban, Esplanade des Fontaines, il y a un petit marché de producteurs bio que je vous conseille bien vivement.
Petit par la taille, mais grand par la qualité des produits et la renommée des producteurs.
Hier soir, il y avait un envoyé spécial pour un reportage. Et évidemment, cet envoyé spécial, vous allez le reconnaître.
Ah bon ?
Bah oui.
C'est moi.
C'est Pascal Olivier. S'il y était, c'est qu'il y avait des coups à boire.
Bonjour Patrice Martinet,
bonjour.
Nous sommes à la foire aux plantes, de la foire bio.
Voilà, c'est la foire aux plantes et sur le marché du jeudi.
Donc c'est le marché bio de Montauban.
C'est le marché bio et qui se tient tous les jeudis de 16 à 20h.
Tous les jeudis,
oui absolument. Oui.
Il y a des petites pauses pendant de temps en temps.
Non, on est là vraiment tous les jeudis.
Donc là, la foire aux plantes, que des plants bio.
Que des plants bio, oui.
Donc ça permet de garnir son jardin avec des fleurs, avec des légumes.
Voilà, c'est la saison, hein. C'est vraiment le moment ou jamais de mettre en place le jardin à la maison.
Et il y a aussi à grignoter, là.
Et oui, toujours un peu marché gourmand. On ne peut pas s'empêcher de grignoter un peu de saucisse, un peu de fromage, boire un peu de vin et goûter les produits.
Il y a des gâteaux,
des flans, il y a de tout.
C'est sympa. Le prochain, je crois que c'est au mois de juillet. Il y a un spécial plan de chat.
Spécial plan de chat. Là, il y en aura beaucoup plus de légumes. On ne sera pas uniquement produits carnés.
Et là, c'est quelle date?
Très bonne question.
Le jeudi 18 juillet. Donc,
toujours de 16 à 20h.
Donc toi, tu vas amener de quoi griller?
Oui, forcément. Oui, de la saucisse. Et sûrement des tranches en léchine.
Le tranche en léchine.
Et oui, c'est très très bon, c'est le meilleur des grillades.
On m'a dit que tu étais devenu le nouveau organisateur de la foire bio de Montauban, la grosse foire bio à Eurythmie.
Voilà.
Est-ce que ce bruit de couloir est exact?
Non, je confirme. Oui, j'ai repris la présidence pour une année de l'association qui s'occupe de la foire bio. Donc ça va, c'est programmé pour le 22 septembre à Eurythmie. Et ça sera la 20e édition, donc on espère quand même une très grande fête, une très grande foire. Oui.
Et on reviendra, qu'est-ce qu'on déguste, reviendra faire une émission en direct comme on avait fait l'année dernière, parce qu'on s'était régalé, le cul sur des bottes de paille, voilà. Avec des gens sympas, on buvait des coups, enfin bon, c'était... Et tu nous réinvites?
Et on réinvite, oui, bien sûr, CFM. Hein.
Bravo. Génial, génial. Bon, bah écoute, longue vie au marché bio de Montauban et bonne foire qui va arriver. Donc, on répète la date.
Le 22 septembre à Eurythmie.
Pour le 20e anniversaire de la foire. Alors, ça s'appelle toujours Biosynergie?
C'est toujours Biosynergie, bien sûr, oui.
Biosynergie à Montauban. Merci, Patrice.
Merci
à bientôt.
À bientôt.
Donc il a de bons talents de reporter, ce Pascal Olivier, bravo.
N'est-ce pas, hein. Non, mais il va falloir nous le présenter. Hein.
Ah, non, mais... Et alors il y avait un petit concours hier soir où en fait il y avait sur une table posé une dizaine de pieds
de plans
pour les jardins. Alors il y avait un plan de tomate facilement reconnaissable, il y avait un plan de capucine facilement reconnaissable, et puis il y avait un plan de pomme de terre, et puis plein d'autres plans. Alors moi là, ça s'est à peu près arrêté là pour moi.
Toi,
mais
tu
j'ai vu
les coups.
J'ai vu Pascal Olivier arriver avec le stylo et noter, et t'as tout trouvé. Le dernier étant un plan assez difficile parce que
poivron chocolat.
Ouais.
Ah, ça c'est con parce que là vraiment ça a pas la feuille n'a pas la feuille du poivron. Et ni la saveur du chocolat. C'est absolument imbouffable. Parce que moi, en plus, j'ai triché, parce que j'ai pris, enfin, pour les plants les plus difficiles, j'ai coupé un morceau de feuille pour la goûter. Parce qu'en général, la feuille a le goût du fruit. La tomate, le machin. Mais alors, le poivron au chocolat, c'est particulièrement dégueulasse à bouffer.
Et le chanvre?
J'ai pas essayé, là, il y en avait pas. Il est bien sympa notre petit marché bio à la place des Griffoules.
Et il faut les encourager parce que ils vont s'y épuiser à force. Ça fait 4 ans maintenant. Donc, ils sont pas très nombreux. Et les premiers, des premiers, il n'en reste plus que deux. Celui qui vend des fraises et des pruneaux et
Gérard Bourbouillon.
Voilà. Et
qu'on retrouve le samedi. Patrice Martinet.
Les autres sont venus renforcer ça ou ne sont pas forcément tout le temps là.
C'est pas facile.
Bah non, mais c'est pas facile pour eux. Mais c'est vrai qu'installer une habitude comme ça dans un lieu, c'est compliqué.
Marché
et en
bio.
Même temps, si tout le monde n'y est pas tout le temps, bah, le client, il revient pas parce que effectivement, s'il peut pas trouver les produits qu'il cherche.
Et donc,
Michel Cassignol, vous mangez bio un petit peu?
Nous avons la chance à Moissac d'avoir un marché qui est très très sympathique.
Ah ouais.
Où effectivement, le meilleur côtoie le pire, hein, il faut le savoir. Mmh. Vous avez de véritables agriculteurs bio. Vous avez des agriculteurs, j'en connais plusieurs, qui vendent entièrement achetés au marché d'Agen, en disant que ce sont les produits de leur terroir, bien entendu.
Mais en plus, ils sont pas super malins.
Et en fait, ce sont les produits de leur tiroir,
ouais,
hein, il faut le savoir.
Ils mettent ça dans des cajots en carton, enfin, ils prennent pas la peine de changer les
marché
cartons.
D'Agen, avec l'étiquette aussi bien du prix d'achat, on voit tout de suite la marge qu'ils pratiquent. Et puis, vous avez des producteurs qui ne sont pas bio, mais qui font d'excellents produits. Parce que le bio, c'est très bien, c'est une mode peut-être, mais l'agriculture raisonnée n'est pas l'agriculture bio et fait d'excellents produits.
Alors, là, si on fait une analyse de ce vin, des vins
une mode,
du...
Pascal, attends, je m'arrête quand même 2 secondes sur ce que vient de dire Michel Cassignol.
Les provocateurs, les avocats, cette noblesse de robe, ils ont toujours...
une mode.
Voilà,
une mode. Non, mais une mode. Alors,
non, c'est une lame de fond.
Ah.
C'est pas
lame
une
de
mode,
fond,
c'est
ou
une
mode.
Lame de fond. Ben oui, en plus. Avec la, en plus, là, on a, il y a de l'eau au moulin, parce qu'avec les derniers trucs de la viande de cheval dans la bouffe industrielle et tout ça, bon, je crois que les gens ont compris quand même que la production de masse et la grande production se fout de la gueule du monde.
Moi, si j'ai bien compris que dans le domaine de l'Espigne, en fait, c'est bourré de pesticides, le château d'Espigne.
Pas du tout. Nous ne sommes pas du tout en bio et encore moins en passage en bio, puisque j'ai des amis que je vous amènerai un jour si vous voulez, qui font d'excellents vins dans le Gers, avec une agriculture qui sont en train de passer en bio. C'est-à-dire, il y a une phase extrêmement longue avant
de 3 ans.
Et elles font un travail extraordinaire, d'autant plus qu'elles ont racheté la propriété de mon beau-frère, qui faisait un peu de tout, et qui n'était pas spécialement... Non, il faisait des très bons produits, mais il ne faisait pas du vin. Ah. Il ne faisait que du raisin pour faire de l'armagnac, puisque c'était du colombard. Donc, il ne faisait pas du tout de vin, sauf pour sa consommation personnelle, c'était une piquette infâme. Par contre, elles ont tout repris, elles ont tout complanté en vin et en cépage, et elles n'ont aucune appellation, mais elles font du très bon produit, et puis ce sont deux filles tout à fait sympathiques. L'une s'occupe plus de la partie sur le terrain, l'autre s'occupe davantage de la cave. Elles ont fait une cave extraordinaire de qualité, et elles font un produit de grande qualité, et elles sont en passage bio actuellement. Elles seront d'ailleurs au Salon des Vins de Moissac, qui a lieu au mois d'octobre cette année, comme tous les ans, et où il y a quand même des produits très 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 intéressants.
Alors, il faut dire une chose, c'est que la viticulture française est une des principales consommatrices de produits chimiques. Je crois que c'est 62 000 tonnes de consommation annuelle d'engrais, de pesticides et d'engrais, et la viticulture c'est un gros 20% de ça. Donc le gros problème, c'est que on retrouve dans le vin tous les intrants qui ont été mis dans la vigne.
C'est ça qui est flippant.
Eh ben oui, alors bon, nonobstant le sulfite, le SO2 qui a bon,
oh là là,
on va dire.
L'autre, il a un avocat en face de lui, alors il nous sort du nonobstant. Tu vas voir que tout à l'heure, il va nous faire des bilvesées. Il retrouve un vocabulaire là.
Ben quand on a du vocabulaire, pourquoi pas l'employer? Monsieur le président, je demande la parole. Donc, on retrouve quand même dans le vin bon, tout un tas de saloperies qu'on a foutu dans la vigne et bon, il y en a beaucoup. On se prend une cuite avec des vins trafiqués, on va dire qu'on a mal à la tête ou pas, mais on se prend une belle cuite avec des vins naturels, c'est rare qu'on ait mal à la tronche même si on a beaucoup abusé. Je suis une preuve vivante.
Vous écoutez CFM, c'est Qu'est-ce qu'on déguste. Pourquoi vous me montrez...
Qu'est-ce qu'on déguste? Bonne question. En ce moment, nous sommes tous là pratiquement sur le Demoiselle Gobert.
Voilà. Qui sont ces demoiselles?
Alors, les demoiselles étaient, elles ne le sont plus, de notre monde aujourd'hui, étaient ma grand-mère et sa sœur de lait. La Demoiselle Gobert, en fait, c'était la sœur de lait.
De lait.
Et parce qu'on ne buvait pas de vin chez nous. Ça, c'est, on en produisait, mais il n'était pas question d'en boire, hein, sauf le jour de fête, mais le reste du temps, on n'en buvait pas.
C'est vrai?
Ah non.
Du lait et de l'eau.
Ni mes grands-parents, ni mon père, en tout cas, ne buvaient de vin.
Mais il ne faut pas boire le bénéfice.
Et c'est comme les dealers, ça. Ils en vendent, mais.
Et donc.
Qu'est-ce qu'on buvait, alors?
Ma grand-mère et sa sœur de lait, qui avait deux propriétés mitoyennes, dont nous avons hérité d'ailleurs, puisque. La sœur de l'aîné de ma grand-mère est décédée sans enfant, donc nous avons hérité de sa propriété. Pour notre plus grand malheur, parce qu'il y avait un usufruitier qui a vécu plus longtemps que mon père. C'est-à-dire que c'était vraiment un peu comme Jean Calment, quoi.
J'ai compris pourquoi il est devenu avocat. C'est pour débrouiller les affaires de famille.
Nous guettions la mort de l'usufruitier tous les ans.
On
allait prendre ses nouvelles. Mais ça durait, ça n'en finissait pas. Et puis un jour, il lâche la rampe quand même. Et donc, nous avons hérité des deux propriétés. Enfin, celle de ma grand-mère d'un côté, ça s'est fait naturellement, et celle de sa sœur de lait de l'autre. Et alors, la photo que vous voyez sur l'étiquette, effectivement, c'est une photo qui a été prise quand elles étaient encore jeunes filles, que nous avons retrouvées dans les archives familiales.
C'est 1925, ça.
C'était avant les années 30, oui, effectivement.
Oui, 25,
puisque mon frère a eu l'idée d'en faire une étiquette. Et alors, vous avez une anecdote très amusante que vous retrouvez dans un bouquin extraordinaire qui a été écrit par un type du village, qui s'appelle Georges Arnaud. Le livre s'appelle Les moulins à nuages. Ça se passe donc dans notre village de Villeneuve-les-Corbières. Il a écrit deux bouquins qui sont le pendant l'un de l'autre, Les moulins à nuages qui se passent à Villeneuve-les-Corbières et Les oranges de la mer qui se passent à Leucate. Tout ça parce que ses grands-parents étaient originaires, l'une, la grand-mère de Leucate, et le grand-père de Villeneuve-les-Corbières. Il raconte notamment le mariage de ma grand-mère avant la guerre de 14, puisqu'elle a dû se marier dans les années 1906 par là. Et mon grand-père a eu la chance de mourir pendant la guerre de 14, au mois d'août 14, donc il n'a pas fait beaucoup, beaucoup de guerres, ce qui lui a valu d'éviter de vivre avec ma grand-mère jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'elle a vécu très très longtemps, effectivement.
T'es une emmerdeuse?
Non, elle avait des principes.
Ah, oh, c'est pire.
On boit pas de vin.
Une très brave femme à principe.
Il vaut mieux une emmerdeuse qu'une femme à principe.
Donc vous n'êtes pas de ceux à qui, enfant, on a mis un petit peu de vin au fond du verre au repas de midi en rallongeant de l'eau pour habituer à ce moulin.
On m'a pas baptisé au Morin et au Jurançon, bien entendu. Par contre, ma mère aimait bien le vin. Elle était pied-noir d'origine. Donc elle était pied-noir, elle aimait, moi aussi d'ailleurs, accessoirement, elle aimait bien le vin et elle m'a fait de temps en temps goûter, et puis c'était quand même une tradition, au moment des fêtes, etc., on participait quand même un petit peu. Et puis il y avait une tradition aussi chez nous, c'était Pâquette. Au moment de Pâques, les enfants de chœur allaient recueillir des œufs qu'on leur donnait, des asperges qu'ils allaient cueillir eux-mêmes dans la campagne, et ils faisaient l'omelette pascale. Et là, l'omelette pascale, en général, c'était l'occasion pour les enfants de chœur de prendre leur première cuite.
Alors qu'on ne boit pas de vin sur les œufs.
C'est une erreur. C'est une erreur.
Ah, c'est vrai qu'on l'a découvert la semaine dernière.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste après ceci.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
You need a real man. est pas mal. Vous savez que je déprimais quand même. Hein. Ça fait quand même une semaine que je gâte la météo et y a rien à faire. Ça se confirme. C'est là. C'est pourri pour le week-end. Et ben voilà, c'est pourri.
T'en fous.
On s'en fout.
On s'en cogne.
Parce que nous, on est là avec une bonne partie de l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste. Petit clin d'œil à Gaël et à Christophe qui ne sont pas avec nous ce soir. À Aurélien aussi qui est en congé. Et merci au passage à Stéphane de le remplacer. Heureusement, Georges est là, fidèle au poste. Pascal aussi. Et Georges nous a... donné l'occasion de rencontrer Michel Cassignol, un ami
de longue date.
De longue date. De 30 ans, ça se dit comme ça.
Un ami de 30 ans.
Un ami de 30 ans.
Méfiez-vous des amis de 30 ans. Il y en a à qui ça jouait des vilains tours. Hein.
Et on va dire avocat vigneron. Est-ce que ça marche, ça, avocat vigneron?
Oui,
non,
avocat
moi, vigneron. Je n'ai pas osé, puisque je ne suis pas vigneron, je ne suis pas sur le terrain. Mon frère n'hésite pas à mettre dentiste vigneron.
Dentiste vigneron.
Ah oui, ça dentiste c'est bien, vigneron. Ça, dentiste. Ouais, moi, j'en connaissais un qui faisait charcutier. Charcutier, pâtissier, dentiste.
Ah oui, ça c'est.
Ouais, il faut le faire.
Ouais, ça c'est quand même pas évident.
Ouais, parce que il fournit. En tant que pâtissier, il fournissait quand même beaucoup de dentistes.
C'est vrai. Est-ce que Depardieu, par exemple, il est vigneron? Non, il est pas vigneron. Il a juste investi. Vous vous sentez actionnaire de cette histoire familiale ou bien vous vous sentez?
Oui, non, je m'en sens très actionnaire parce juste que financièrement, c'est une société de famille et financièrement, quand il y a des pertes, nous les supportons.
Eh ben, il faut.
C'est-à-dire, nous mettons la main à la poche.
Non, mais
c'est pas une société distincte.
Mais vous en mettez dans la poche quand ça gagne, quand même.
Eh bien, ce moment, la viticulture traverse une période très difficile et nous sommes plutôt à mettre la main dans la poche pour sortir que pour rentrer le bénéfice.
Mais vous buvez les bénéfices, c'est pour ça.
Si c'était le cas, au moins. On finirait dans la joie et dans la bonne humeur.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est vrai que depuis le début de cette émission, on sait toujours pas où c'est qu'on en achète du Château Lespine. C'est quoi les réseaux de distribution? Est-ce qu'il faut aller en Chine parce que vous exportez en Chine? Ou est-ce qu'on peut espérer en boire sur quelques tables de restaurants de notre belle région?
Alors là, pour notre malheur, vous n'en trouverez pas à la grande distribution parce que mon frère, malgré les offres que nous avons eues, très intéressantes d'être introduit dans la grande distribution, mon frère n'a jamais voulu être introduit, je ne sais pas pourquoi. Dans la grande distribution.
Introduit par Georges, ça fait mal quand même.
Vous n'en trouverez pas à la grande distribution. Vous en trouverez chez certains cavistes triés sur le volet. Et vous en trouverez surtout dans la restauration. Parce que y a quand même un certain restaurateur et caviste de Toulouse, notamment notre ami du Nabucodonosor, qui nous en prend assez régulièrement, ce qui fait qu'on peut en trouver en Tarn-et-Garonne, on peut en trouver à Toulouse. Mais effectivement, et ça c'est une constante, le vin local se boit localement. Les gens de la région de Toulouse boivent du Fronton, les gens d'ici boivent du vin du Tarn-et-Garonne, et aussi du Fronton, fort heureusement.
Mais beaucoup de Cordelais sont à Bordeaux, etc. Enfin, non, on voit aussi du Cordelais.
Mais le Cordelais, c'est assez... Mais oui, mais malgré tout...
C'est vachement bien, ça.
Ah oui.
Il y a un petit côté chocolat.
Ah oui, le Demoiselle Gobert, oui, c'est bien, oui.
Alors, le Demoiselle Gobert. Comment,
qu'est-ce que c'est qui donne ce petit côté? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous avez...
Tout à fait.
Ce côté chocolat, là.
Oui, non, t'as le...
Alors, le Demoiselle Gobert, c'est un mélange... De mon point de vue, c'est notre meilleur produit. Pour mon frère, ça n'est pas celui-là, mais c'est celui que je préfère.
Et
ça, conflit de gustatif.
On va lui passer un coup de fil, ouais, à votre frangin.
Le Demoiselle Gobert, c'est un vin de coupage, de mélange, puisque donc, vous avez 50% de Carignan, qui est la base, bien entendu, du Fitou, 30% de Grenache noir, ce qui fait le Fitou, et 20% de Syrah, qui est quand même un cépage améliorateur, que l'on sent, hein, incontestablement, le Syrah, ça apporte du bouquet, ça apporte vraiment un peu plus. Et c'est un vin qui est, bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, récolté en vendange manuelle, puisque l'ensemble de la propriété ne peut pas être récolté à la machine, ça c'est impossible.
C'est mis en barrique à un moment ou bien?
Et celui-ci non. Celui-ci ne passe pas en fût de bois. Celui que nous aurons ensuite, le plat des Roufias, qui est la meilleure qualité que nous ayons en ce moment, puisque nous ne le faisons plus, hélas, du Jean Cassignol, qui était de très très grande qualité.
Et pourquoi?
Parce que l'appellation, nous l'avons modifiée un petit peu, et nous l'appelons plat des Roufias, qui est le nom d'une de nos vignes. Hein, le plat des Roufias.
Alors, le plat de Roufias, c'est l'ancien Jean Cassignol.
En gros, c'est l'ancien Jean Cassignol. Pour faire simple, c'est l'ancien Jean Cassignol. Le Demoiselle Gobert est effectivement notre vin un peu phare. Celui qui se vend le mieux d'ailleurs, ce qui prouve que le goût des clients,
bah, le public, on va pas le prendre pour des
globalement comptes, le goût des clients,
on attrape pas des mouches avec du vinaigre.
Non mais ça c'est bien. Non, combien
c'est bien,
ça se vend ça le truc de la mamie là.
Très bonne question.
Le truc de la mamie, la demoiselle Gobert.
Les demoiselles Gobert.
Et c'est Tu t'aimes pas ça?
Ah si, ça c'est très bon. Moi, je préfère ça plutôt que le plat.
Alors, mais j'ai pas encore goûté le plat du truc là.
Le plat de côte. C'est un vin à boire au mitton sur
un
samedi.
Un vin
voilà, il faut
c'est
un
tout
début.
C'est un vin à boire sur une.
Non, mais ça, c'est bien ça.
Le demoiselle de Gobert se trouve dans le commerce prix public 5,90 €. TTC. Donc, on reste en dessous de la barre des 6 €. C'est quand même très correct.
Et non mais après moi je me fais engueuler quand je suis invité chez des copains et que j'emmène un vin à 5,50 €.
Mais non mais tu restes à 2,90 €, alors bon.
Non.
Et pour nos amis cavistes, bien entendu c'est moitié prix, c'est 3,45 € hors taxe.
On des cavistes nous.
Pourquoi on pourrait pas, on va se faire un fond de cave avec ça.
Mais c'est clair. Mais tu
vas se faire un fond de cave.
Bon ça fait 14 degrés les gars, à boire avec modération.
Moi je dis c'est 75 centimes.
Faire de la vigne aujourd'hui, j'ai l'impression que pour vous, Michel Cassignol, c'est comme un peu un poids quoi. Il y a comme une enclume, il y a comme un passif familial quoi. Ça vous gonfle un peu.
Mais s'il gagnait des ronds, il chanterait partout. Maintenant il faut qu'il mette la main à la poche quand il y a des pertes.
Mais,
alors
non,
il fait la gueule.
Tiens encore j'étais perte blanche.
Oh bon, bravo.
Oh
Ah oui,
bah
là,
on
y
était,
là.
Ah oui, là, ça y est. Et là, t'es au podcast, t'es partout, là. Là, tu es partout. En mode vision.
Il n'y a pas quelqu'un qui fait des
mauvais jeux de mots.
Qui en fait des mauvais.
Non, mais là, c'était.
On la relèvera pas. On va d'ailleurs enchaîner avec la légèreté d'un morceau de
et
jazz.
Et on n'a pas du jazz.
C'est tout à fait l'occasion, le moment donné pour. Alors, donc, aujourd'hui, j'avais choisi Duke Ellington, une des personnalités noires américaines les plus célèbres du XXe siècle, qui a enregistré pour une grande maison de disques américaine et joué dans plusieurs films. Avec son orchestre, il a fait des tournées régulière aux États-Unis, en Europe et puis dans le monde entier du début de sa carrière 1923 jusqu'à sa mort en 74. Le 24 mai 74, après son 75e anniversaire, Duke succombe à une pneumonie. Elle est pas mal celle-là.
Une momie.
Plus de 12 000 personnes assistent à ses funérailles et la fête générale fera un honneur en disant quelques mots. Son fils Mercer Ellington reprend immédiatement la direction de l'orchestre. Il dirigera jusqu'à sa mort.
Oh là là,
en 1996.
Ça, c'est fini le pinard.
Arrête le 14 degrés, parce qu'alors là, non, Michel, faut plus lui en donner, là.
Et après, c'est son fils Paul Ellington qui continuera l'orchestre. Donc, l'orchestre de Duke Ellington depuis 1923 joue. Et on va écouter un titre maintenant.
Mais c'est quoi?
Je le dirai pas. Bon, non, c'est bon. C'est une des compositions de Juan Tizol, des plus connues, s'appelle Caravane.
Ah, mais c'est ça, Caravane.
Thank you.
Ellington en quartet avec, excusez du peu, avec Charlie Mingus à la contrebasse et Max Roche à la batterie. En fait, c'était un trio.
C'était pas Caravane.
Et nous l'avons trouvé dans Caravane.
Mais j'ai pas trouvé que
Mais avec une orchestration particulière. Si sur...
C'est quoi le thème de Caravane? Est-ce que tu peux le fredonner? Mais on l'a pas entendu, là.
On l'a pas entendu.
On l'a pas entendu.
On l'a pas entendu. C'est-à-dire qu'ils ont joué, sur les harmonies Caravane.
Ah d'accord, donc sans donner le thème, parce que normalement, au départ, il te donne quand même un petit peu le thème, et puis après, il s'en va.
Mais c'est
dessus,
les percussions et la structure rythmique.
Alors attends, tu nous le remontes, et puis alors, le truc c'est... Vas-y.
Tout à fait. Il faut le chercher, hein.
Je vous signale qu'on perd 10 000 auditeurs à l'heure.
Ah, tiens, il y est.
Oui, sur un autre tempo, mais il y est.
C'est ça le jazz, c'est la liberté.
Ah, tout à fait.
Et c'est très très moderne, c'est un enregistrement de 64 qui pourrait être actuel.
C'est un poil abscon. Ouais.
Oh, quel vocabulaire. Abscons vous-même.
Qu'est-ce qui ferait demain exploser les ventes du château Lespigne?
D'abord, c'est quoi le...
Ce serait bien si
Maghreb... Attends, une question.
Ce serait bien quand même si le Maghreb et le Moyen-Orient se mettaient au vin rouge. Ça ferait exploser les ventes du château d'Espagne.
Mais pas les Chinois.
Et nous sommes prêts à fournir.
Non, mais les Chinois, vous pourriez.
Les Chinois, oui, c'est un.
On va faire avec 35 hectares, vous n'allez pas faire non plus.
Extraordinaire.
Ça fait combien de colle, 35 hectares? Combien de bouteilles?
C'est quoi le rendement à l'hectare?
C'est 30 hectares. Parce que ça, c'est 30 hectares. 30 hectares à l'hectare.
Vous vendez tout, de toute manière, non?
Et non. D'une année sur l'autre, il nous arrive d'avoir du vin qui reste en cave. Et alors, le système fiscal français est extraordinaire. C'est qu'on n'est pas imposé sur le vin que l'on vend. On est imposé sur le vin que l'on produit. À partir du moment où il est en cave, on fait la déclaration
de patrimoine.
Déclaration de récolte, et nous payons l'impôt sur le vin en cave.
Ah, oui.
Qui a un prix. Et puis ensuite, si nous n'avons pas vendu la totalité de la récolte de l'année suivante, on refait une nouvelle déclaration de récolte et on y ajoute le stock de vin en cave et on est réimposé
sur
le vin
en
cave. Déduction faite, bien entendu, pour le vin de l'année précédente, ce que nous avons déjà payé l'année. C'est-à-dire que moins on vend, plus on paye.
Le système est bien foutu.
C'est un système, oui, qui était quand même extraordinaire.
Le système est bien foutu.
Mais c'est pour vous inciter à avoir le dynamisme de la vente.
Alors que si nous étions imposés effectivement... Je parle de l'impôt sur le revenu, je ne parle pas de l'impôt foncier, bien entendu. Pas de l'impôt foncier, ni de l'impôt donné à la TVA. La TVA, nous la payons sur la bouteille vendue. Mais l'impôt sur le revenu est payé sur le vin en cave, c'est-à-dire que...
Oui, parce que c'est un patrimoine, c'est considéré
comme un patrimoine. Ça se revalorise l'un sur l'autre.
Et plus vieilli,
plus il vaut cher. Et plus il vaut cher, plus nous payons. Donc nous payons pour du vin qui n'est pas encore vendu. C'est extraordinaire quand même.
Il faut boire,
si je payais aujourd'hui des impôts sur les consultations que je ferai plus tard. Pourquoi pas?
Il faut boire les excédents. Mais nous, qu'est-ce qu'on déguste? On prend là, on peut vous aider à évacuer le...
Ça c'est gentil.
Ah oui.
C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis.
Voilà,
merci,
n'est-ce pas, on peut faire.
Allez, j'ai quelques messages personnels. D'abord, Philippe, tu es le bienvenu. Tu devais arriver vers la fin de cette émission avec quelques bouteilles. On t'attend.
Oui, voilà.
Voilà.
Viens.
On attend, Philippe.
Viens.
C'est quand tu veux. Tu as le droit de venir avec des bouteilles ou sans, d'ailleurs, parce qu'il y en a suffisamment, je pense.
Oui, on a pas mal de trucs ouverts.
Autre petit message personnel. Demain, chez Pierre Cantegrel, où j'ai mangé d'excellentes morilles fourrées aux pieds de porc ce
midi.
Non,
c'est les pieds de porc truffés aux morilles.
Non, mais non, c'est
les morilles truffées au pied de porc.
Ah, mais attends, je sais quand même ce que j'ai mangé.
Oui, moi,
je
n'avais pas mangé.
Mais il est incroyable, quand même.
Enfin, je vois mal des pieds de porc fourrés des morilles.
Mais
c'est plutôt le contraire.
Une morille, c'est creux, et d'accord, à l'intérieur de la morille, tu peux la fourrer au pied de porc.
D'accord.
Voilà, et bien, c'est ce que
j'ai
mangé.
C'est tout l'art de Pierre, ça.
C'est tout l'art de Pierre. Voilà. Et ça, c'était délicieux. Bon. Alors, et il me dit, tiens, si t'as une petite place dans ton émission, si tu peux annoncer, je fais une opération spéciale, comme je supporte l'USM face au match retour de huitième de finale face à Saint-Etienne, je fais un truc spécial sur présentation du ticket d'accès à la cuvette de Sapiac pour le match. J'offre un verre de vin et un tapas. Voilà, donc il offre l'apéro à tous ceux qui vont aller voir le match demain.
Si on a une bonne gueule, on n'a même pas besoin d'avoir le ticket.
Ouais, enfin, l'énerve pas trop quand même, le Pierrot.
Faut pas exagérer.
Voilà. Non, mais... Point trop d'enfants. Point trop d'enfants.
Ça va, Pierre, il est gentil. Point c'est un gentil. C'est un gentil.
Attention, t'es à la radio là. D'ailleurs, on en parlait avec lui, et il me disait à midi que de plus en plus il aurait envie de devenir anarchiste.
Les anarchistes!
Et il y a donc un deuxième morceau de Léo Ferré. Non? Si. Non, mais c'est le temps qu'on se rend plus solaire.
Non, mais il a l'habitude, lui, c'est pas du téléguidé, Stéphane.
Ah ben non, mais
il faut lui dire, il faut lui faire une timeline.
Mais c'est normal, il n'a pas l'habitude, comme Aurélien, de pouvoir rebondir sur tous nos... Qu'est-ce qu'il y a?
Il faudrait parler un peu de ce vin, le plat de Rouffier.
Ah ben moi, je veux bien parler d'un vin, mais je ne parle d'un vin que si je le goûte.
Tu l'as dans ton verre, je viens de t'en mettre.
À l'instant, là?
À l'instant, oui.
Donc là, maintenant, je peux goûter.
Tu peux le goûter.
Ça, je goûte.
Oui.
Alors, je goûte. En même temps, j'écoute les anarchistes. Et après, on en parle.
Ok.
Allez. Oh là, c'est autre chose.
Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais. Et lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes, ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi. Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
C'est difficile de passer Léo Ferré quand même, ce micro. Donc les anarchistes, Léo Ferré, vous avez une soirée spéciale, les enfants de Léo, le mardi 7 mai, pendant Alors Chante avec Cali, Yves Jamet, Alexis Sachka, Nilda Fernandez, Catherine Boulanger et l'orchestre du Conservatoire. Et ça va être drôlement bien. Je vais pas y être parce que je suis ailleurs, mais j'aurais bien aimé y être.
Et après, voilà. il te dit, c'est difficile de passer.
Bah oui, parce que tout le monde dit c'est chiant. Mais c'est pas vrai. Mais Léo Ferré, c'est pas chiant. C'est pas moderne.
C'est pas que ce soit chiant. C'est comme toi, t'es un bon copain.
Mais t'es chiant. Attention des vieux cons et des malentendants et des malpolis.
Bon, on se rapproche de la fin de cette émission, les gars.
Petit questionnaire gourmand.
3 minutes pour un questionnaire gourmand pour Michel Cassignol, ouais. Maître avocat.
Comment ça se dit ? À la barre.
Maître avocat. Avocat.
Avocat vigneron.
Avocat vigneron à la barre. Il y a plus d'abattoir à Moissac.
Il n'y a plus de palais de justice non plus.
Il est situé en face de ma maison, ou plutôt ma maison est située en face du palais de justice. C'était la raison pour laquelle j'avais choisi cet emplacement stratégique. Et 3 ans plus tard, crac, on m'a fermé le palais de justice.
Tu pourrais y aller en pantoufle.
Rachida Dati ne l'emportera pas en paradis.
C'est une conne, nous a dit Michel Jean-Pierre Coff là il y a pas longtemps. Il l'a insupporté là. Il lui a fait chier. Dans les bottes.
Vous avez un mur des cons quelque part ou
non,
pas
non, non, non. Ça se fait beaucoup.
Ça se fait beaucoup au syndicat
de la magistrature, notamment. Oui.
Et voilà.
Chez nous, nous n'avons pas affiché, mais nous avons nos têtes aussi. Nous avons nos têtes préférées et nos têtes moins préférées, bien entendu.
Allez, le questionnaire gourmand de Qu'est-ce qu'on déguste, il est pour vous.
Alors, on vient de dîner chez Michel Cassignol. Qu'est-ce qu'on boit?
En entrée, alors évidemment, si je dois vous faire goûter les produits du terroir.
Qu'est-ce qu'on boit ?
En entrée, je vous servirai avec les tapas Muscat de Rivesaltes. Puisque celui que nous allons prendre maintenant en dessert, si vous voulez, puisque chez nous, c'était ce qu'on appelait les vins de dessert. Mais les vins de dessert, maintenant, se boivent beaucoup plus à l'apéritif, en définitive, qu'on est cher. De même que les champagnes sont bien meilleurs quand on a la bouche fraîche que quand on est en fin de parcours. Et quand on a mangé la poule faisane, la pièce montée, le reblochon et le trou normand.
Michel Cassignol, on ne fait pas une plaidoirie, là il faut aller rapide, parce que l'auditeur se barre à grands pas.
Il nous reste 45 secondes, je suis désolé. Donc,
à l'entrée, un muscat de Rivesaltes sur le tapas.
Et en sortie, juste.
Ensuite, le demoiselle
Gobert. En sortie, maître.
Le plat des Rufia. Et pour terminer, la surprise d'automne. Quelque chose qui est surprenant.
C'est vrai que c'est surprenant.
Gustatif.
Oui, c'est bien ça. Ouais.
Et sur lequel vous finirez sur une note à la fois.
Est-ce qu'il y a un site
fruité et sucré.
Est-ce qu'il y a un site internet très rapidement de
vous trouverez le site internet effectivement du Château Lespigne à l'appellation Château Lespigne.
Merci Maître Cassignol d'avoir été notre invité dans Qu'est-ce qu'on déguste ce soir. Merci Georges de nous l'avoir présenté. Ça peut être utile.
Il reviendra.
Avec modération.